Chapitre 6. Les triumvirs avaient dit que, sur le point de quitter Rome, ils ne voulaient pas laisser d'ennemis derrière eux. Ce fut à peu près les mêmes paroles que dirent 18 siècles après les hommes qui firent les massacres de septembre. Et, en effet, les massacres de Rome achevés, il était temps de tourner les yeux vers la Macédoine, où étaient Brutus et Cassius avec une armée. Avant de marcher contre Brutus et contre Cassius, Octave pensa qu'il était bon de régler leur position de rebelles. Il les traduisit donc en justice, eux et leurs complices, comme ayant causé la mort d'un homme, non seulement revêtu des plus hautes dignités, mais grand entre tous les hommes. Il les assigna en conséquence à comparaître devant lui, nommant comme accusateur de Brutus, Lucius Conficius, et comme accusateur de Cassius, Marcus Agrippa. Naturellement, les accusés ne comparurent point. Octave força les juges à les condamner par contumace. Mais lorsque le héros, du haut de la tribune, ajourna Brutus à comparaître et qu'à cet ajournement le silence seul répondit, une longue et douloureuse plainte s'éleva des rangs du peuple qui fit en passant frissonner Octave sur son tribunal. Ceux qui gardèrent le silence baissèrent la tête. Publius Silicius pleura et eut l'imprudence de ne point cacher ses larmes. Ces larmes étaient un crime qui fit mettre Publicus Silicius au rang des proscrits. Au moment où ces choses se passaient à Rome, Brutus était à Athènes. Condamné à mort par Rome, Athènes lui faisait un triomphe. Disons en quelques mots ce qu'était Athènes à cette époque. Athènes était le rendez-vous de toute la jeunesse aristocratique de Rome. C'est là que se débattaient les diverses doctrines religieuses et sociales qui occupaient le monde. Horace, qui y était à cette époque, nous reviendrons à Horace, dont les poésies nous donneront plus d'un renseignement historique que nous chercherions en vain dans Plutarque, Dion ou Appien. Horace nous dit, dans son épître à Florus, ce qu'on y apprenait. « Il m'est arrivé, dit-il, d'être élevé à Rome et d'y apprendre tous les maux que la colère d'Achille avait fait souffrir aux Grecs. Cette excellente ville d'Athènes ajouta beaucoup à mon instruction. » J'appris là comment on peut distinguer la ligne droite de la ligne courbe et à rechercher la vérité dans les bosquets d'Académus. Ces jardins de l'Académie où Servius Sulpicius faisait enterrer son collègue Marcellus comme étant le lieu le plus célèbre de l'univers, ces jardins de l'Académie qui firent une impression si profonde à Cicéron lorsque la première fois il les visita en compagnie de Quintus Cicéro son frère, de Lucius Cicéro son cousin germain, et de ses amis Pomponius, Atticus et Pison, était encore alors le rendez-vous de toutes les grandes intelligences humaines qui venaient, pour ainsi dire, y boire la philosophie aux sources du passé. Il est vrai que ces grands ombrages étaient devenus de simples bosquets. Il est vrai que ces arbres dont parle Horace n'étaient plus ceux qui avaient ombragé Platon et ses disciples. Ces beaux arbres, ces vénérables platanes, dont Pline nous donne les gigantesques dimensions, avaient été coupés par Sylla lorsqu'il fit le siège d'Athènes. Sylla les avait traités comme des hommes, ils n'avaient pas plus respecté leurs cimes qu'ils ne respectaient les têtes. Aujourd'hui, les bosquets eux-mêmes, qui, du temps d'Horace, avaient succédé aux grands arbres abattus par Sylla, aujourd'hui ces bosquets ont disparu, à peine sait-on vous indiquer, dans l'Athènes du roi Othon, où étaient ces jardins que Lucius Sulpicius appelait, comme nous l'avons dit, le lieu le plus célèbre de l'univers. Cependant, si vous voulez le visiter, moderne voyageur, faites-vous indiquer un champ ouvert de 5 acres d'étendue, appelé encore aujourd'hui par ceux qui le cultivent, Akathemia. Ne cherchez point la trace des murs dont l'entouraient Hipparque et Simon, car la trace même de ces murs a disparu. Mais vous y trouverez encore les 3 ruisseaux qui, descendus de l'Enquesmus, y coulaient du temps de Platon. Près de ce champ, vous verrez 2 monticules, 2 petites chapelles qui marquent peut-être les emplacements des autels et des sanctuaires qui se trouvaient dans l'antique enceinte, si toutefois elles n'indiquent pas la place de la tour de Timon et de la maison de Platon. Les seuls arbres que vous y trouverez à cette heure sont quelques oliviers épars qui rappellent qu'Athènes était la ville de Minerve et que l'arbre de Minerve était l'olivier. Or, tout ce qui se passait à Rome avait son retentissement à Athènes. La nouvelle de la mort de César y arriva comme un coup de foudre. Nous avons dit que c'était surtout l'aristocratie romaine qui étudiait à Athènes. Or, l'aristocratie, qui avait pris Pompée pour chef, était, par le fait même, anti-césarienne. Ce fut donc parmi toute cette aristocratie une joie que personne ne se donna la peine de cacher. Sur ces entrefaites arriva, adressé à son fils, un nouveau livre de Cicéron intitulé « De officiis », c'est-à-dire « des devoirs ». Ce livre traitait, comme l'indique son titre, des devoirs de l'homme envers la société. La morale la plus républicaine respirait dans ce livre et Cicéron avait eu le temps d'y intercaler certains passages par lesquels il indiquait donner un plein assentiment à l'assassinat de César, quoiqu'il ne fût point complice de cet assassinat, les meurtriers n'ayant point voulu lui révéler le complot à cause de la faiblesse de son caractère. D'abord, dans un premier livre, il attaquait violemment César. Il arrive à bien des hommes, disait-il, d'oublier la justice lorsqu'une fois la passion de la gloire, des honneurs et du commandement s'est emparée de leur âme. C'est ce que dit Ennius. Qu'importe le serment lorsqu'il s'agit d'un trône? On peut s'étendre bien plus loin. En général, pour tout ce qui n'est réservé qu'au petit nombre, il s'établit une si grande rivalité qu'il est difficile de conserver intacts les droits sacrés de la société. C'est ce que vient de nous prouver la témérité de César, qui a renversé toutes les lois divines et humaines pour arriver à ce rang qu'il croyait faussement le premier. Ce n'était pas tout. Après avoir attaqué dans son premier livre César vivant, dans son troisième livre, Cicéron glorifiait, sans les nommer, Cassius et Brutus, en exaltant l'assassinat politique dans les circonstances où César avait été assassiné. Aussi, disait-il, entre nous et les tyrans, pas de société, mais bien plutôt un abîme. Il n'est pas injuste de dépouiller, si vous le pouvez, celui qu'il est bien de tuer. C'est un devoir d'anéantir cette engeance sacrilège, d'anéantir cette peste contagieuse. On coupe un membre dès que le sang cesse d'y circuler et d'y porter les esprits vitaux, parce qu'il tient au corps entier. Donc, et de même, il faut retrancher de l'espèce humaine ces bêtes féroces qui n'ont rien de l'homme que le visage. À Rome déjà, où tout le patriarcat et tout l'ordre des chevaliers étaient pompéens, une pareille morale avait excité de grandes sympathies. Mais à Athènes, toujours traitée par le Sénat plus favorablement que les autres villes, à Athènes, que la nature démocratique de son ancien gouvernement avait faite glorieuse dans la paix et dans la guerre, à Athènes, où la cause de la liberté réunissait tous les esprits, toutes les opinions, le traité de Cicéron excita une admiration qui atteignit l'enthousiasme quand on sut que Brutus et Cassius venaient de débarquer au Pirée. Elle ordonna que tous deux seraient mis au nombre des héros qui avaient le mieux mérité des hommes et qu'une statue leur serait dressée auprès de celle d'Harmodius et d'Aristogiton. Ils allaient prendre le commandement des provinces qui leur étaient confiées et leur arrivée à Athènes coïncidait à peu près avec l'arrivée d'Octave à Rome. Cassius, plus homme de guerre que Brutus, fut chargé par conséquent de l'organisation de l'armée qui se rassemblait en Syrie. Il ne fit que poser le pied dans la capitale de l'Attique. Brutus, plus homme politique, meilleur orateur que Cassius, resta à Athènes pour attirer à lui les esprits de toute cette jeunesse dont les parents étaient les principaux à Rome. Brutus avait des antécédents, on se le rappelle. Gendre de Caton, il avait vaillamment combattu pour la cause aristocratique à Pharsale et, recherché par César après la bataille, ne s'était jamais rallié à lui. Puis c'était un peu pour lui-même aussi que Brutus séjournait à Athènes. Plus qu'homme politique encore, Brutus était homme d'études et de sciences. Il aimait les pures extases de l'esprit, les spéculations abstraites de l'intelligence. Il eut de fréquentes conférences sur la philosophie avec Cratippès et Théomnestès, sans que cela nuisît aux sciences publiques, dans lesquelles il tenta d'inculquer dans le cerveau, ou plutôt dans le cœur de toute cette jeunesse, les principes stoïques d'un patriotisme courageux. Ces efforts de Brutus portèrent leurs fruits. Lorsqu'il quitta Rome, il fut suivi par bon nombre de ces jeunes gens qu'il accompagnait comme volontaires. Au nombre de ces jeunes gens étaient Horace, Messala le fils de Cicéron et le fils de Caton. Horace devint le plus important de tous ces hommes, non par son courage ou par sa position politique, mais par son génie. Horace et Virgile sont les deux flambeaux, non seulement du règne d'Auguste, mais les deux phares poétiques de l'avenir. Sans doute il y en eut un troisième, dont le nom seul est parvenu jusqu'à nous. C'eût été le poète tragique Lucius Varius. Mais ses œuvres se sont perdues et nous ne les connaissons guère aujourd'hui que par cette portion de sa propre lumière qu'Horace verse sur lui dans les vers qu'il lui adresse. Disons donc quelques mots d'Horace. C'était à cette époque un jeune homme de 22 ans, d'une taille courte et ramassée, à cheveux noirs descendant très bas sur le front, au teint frais et coloré, aux traits fins et gracieux. Il avait les yeux grands et ouverts, mais les paupières rouges et malades, ainsi qu'il se charge de nous le dire lui-même dans sa satire contre le chanteur Tigellius, dans laquelle il se répond au nom de ses ennemis. « Le stupide amour que tu as de toi-même ne mérite-t-il pas qu'on te flétrisse ? Lorsque, avec tes yeux chassieux, tu ne sais pas même apercevoir ce qui te manque, pourquoi porter sur tes amis un regard perçant comme celui de l'aigle ou malin comme celui du serpent d'Épidaure ? » Ce jeune homme, encore ignoré du monde, et qui, selon toute probabilité, s'ignorait encore lui-même, était né à Vénusien, ville antique située aux confins de l'Apulie et de la Lucanie, au penchant d'une verte colline, dans un pays riche, fertile, entouré de montagnes. Il était né sous le consulat de Lucius Manlius, comme il nous le dit lui-même, en débouchant une amphore de vin marquée de la date de ce consulat. D'autres indications du poète indiquent que cette naissance avait eu lieu dans le mois de décembre de l'an 689 de la fondation de Rome, 65 ans avant l'ère chrétienne. Enfin vient Suétone, qui, dans la courte vie d'Horace qu'il nous a laissée, non seulement confirme cette date, mais nous dit le jour précis de la naissance de l'auteur de l'art poétique. C'était le sixième des Ides, c'est-à-dire le 8 de décembre. Qu'on ne s'étonne point de l'importance que nous attachons ici à Horace. D'abord, il la mériterait comme poète. Mais poète seulement, peut-être passerions-nous plus rapidement sur lui. Non, c'est Horace historien que nous caressons et que nous étudions à cette heure. Horace qui, dans ses poésies, presque toutes inspirées par les événements publics et particuliers, va nous rendre le même service pour le siècle d'Auguste que Cicéron, avec ses lettres familières, nous a rendu pour le siècle de César. Horace était le fils d'un affranchi. Lui-même le dit, ou plutôt s'en vante. Il se nommait Quintus Horatius Flaccus. Quintus était son prénom, Horatius, non pas son nom de famille, mais probablement le nom de famille des maîtres de son père. Enfin, Flaccus, qui, s'appliquant tout ensemble au physique et au moral, veut dire à la fois le mou, l'homme à grandes oreilles, et par extension, le paresseux, le lâche, était probablement un sobriquet dont le poète aura hérité en même temps que de ses autres noms. Horace raille ce sobriquet dans sa 15e épode. Ô Néhéra, que de regrets va te coûter mon courage! Oui, s'il reste encore dans Flaccus quelque chose de viril, il ne souffrira pas impunément que tu prodigues tes nuits à un rival préféré. Nam si quid in flacco viri est. Ce qui, quoi qu'en dise Dacier dans sa vie d'Horace, tome 5, page 299, est un mauvais calembour qui, strictement, ne peut se traduire qu'ainsi, car s'il reste dans le mou quelque chose de solide. Nous avons déjà vu que c'était une des coutumes d'Horace que de se moquer de lui-même. Pourquoi n'aurait-il pas raillé son nom ridicule, lui qui raillait ses yeux chassieux ? Horace lui-même va se charger de nous dire quelle fut sa naissance, son éducation et tout ce qu'il doit à son excellent père. Nous prenons la citation suivante à l'ouvrage du savant baron Valkenaer qui a fait un si beau travail sur Horace. Revenons à moi, qui suis le fils d'un affranchi. Ceux qui m'envient le grade de tribun et l'honneur que j'ai d'avoir commandé une légion romaine, et celui que j'ai d'être votre convive, croient m'offenser en répétant sans cesse que je suis le fils d'un affranchi. Il est vrai, mécène, que vous savez si bien discerner l'honnête homme du vil coquin, que si je vous ai plu, si vous voulez bien me compter au rang de vos amis, c'est à la noblesse de mes sentiments, à ma conduite irréprochable, que j'en suis redevable, et non pas à l'illustration de mon père. Pourtant, sachez-le bien, si, à quelques défauts près, qui sont comme autant de taches sur un beau corps, mon naturel est vertueux, mes inclinations droites, mon âme innocente et pure, qu'on me passe pour cette fois les louanges que je me donne, si, avec raison, on ne peut me reprocher rien de bas, rien de sordide, rien de hautain. Si, enfin, je suis cher à mes amis, c'est à cet affranchi, à mon excellent père, que je dois tout cela. Lui, propriétaire d'un mince patrimoine, il ne voulut pas m'envoyer à l'école de Flavius, où des enfants, nés d'honorables centurions, allaient avec leurs sacoches et leurs tablettes suspendues au bras gauche, apporter exactement aux ides de chaque mois le salaire du maître. Il me conduisit à Rome pour que j'y reçusse l'éducation réservée aux fils de chevaliers et de sénateurs. À mes habits, aux esclaves qui suivaient, on me prenait dans la foule pour le fils d'un homme riche ou pour le rejeton d'une longue et illustre série d'aïeux. Mon père fit plus, il fut pour moi un gouverneur vigilant, incorruptible. Il ne me perdait point de vue, m'accompagnait chez mes professeurs, et non seulement il sut me garantir de toute action capable de flétrir en moi la première fleur de la vertu, mais, ce qui n'est pas moins important, il me mit à l'abri du soupçon. Il ne craignit point qu'on lui reprochât un jour de n'avoir fait tant de dépenses que pour que je fusse ce qu'il était lui-même, un caissier, un simple receveur de deniers. Si tel avait été le résultat de ses soins, je ne me serais pas plaint, mais s'il en a été autrement, il a droit à plus de reconnaissance et à plus de louanges de ma part. Comment pourrais-je donc ne pas me féliciter d'avoir eu un tel père? Comment, ainsi que tant d'autres, me défendrais-je en disant que si je ne suis pas né de parents illustres, ce n'est pas ma faute? Mes sentiments sont tout autres et me dictent un autre langage. Oui, je le déclare, si la nature nous reprenait les années qui se sont écoulées depuis notre naissance, et que chacun, selon les caprices de son orgueil, fût libre de se choisir d'autres parents que ceux qu'il avait, je laisserai le vulgaire s'emparer des noms illustres qui ont brillé au milieu des faisceaux et dans les chaises curules, et, dussé-je passer aux yeux de tous pour un insensé, je resterai satisfait des parents qui m'ont été accordés par la bonté des dieux. Voilà donc quelle avait été la naissance et la première éducation d'Horace. Son père, ne trouvant pas que le maître d'école de son village, ce digne Flavius fut un instituteur digne de son fils, le plaça sous la férule la plus sévère du professeur de belles lettres à la mode de Rome à cette époque, de Pupulus Orbilius. Ce digne instituteur était de Bénévent. Il avait été corniculaire, c'est-à-dire brigadier dans la guerre de Macédoine, était venu à Rome à près de 50 ans sous le mémorable consulat du pauvre Cicéron. Là, il vécut et mourut à peu près dans la misère. Il avait 100 ans lorsqu'il mourut. Ses concitoyens, les Bénéventins, qu'il avait fort négligés pendant sa vie, l'honorèrent selon la coutume après sa mort. Ils lui élevèrent une statue en marbre blanc que vit Suétone et dont Suétone parle dans ses illustres grammairiens. Il était représenté assis, revêtu du pallium, grand manteau qui, chez les Grecs, remplaçait la toge romaine. Le sculpteur lui avait mis deux écritoires à ses côtés. Horace avait gardé un rude souvenir du digne homme, il l'appelle Plagosus, le frappeur. Ce fut sous ce frappeur que le poète étudia les lettres grecques et latines. Livius Andronius, Nevius, Ennius, Pacuvius, Axius, Afranius, Plaute, Cécilius, Terence, Eupolis Cratinus, Échille, Sophocle, Aristophane, Euripide. À 20 ans, il était parti pour Athènes. C'était pendant ces 20 années de l'enfance et de la jeunesse d'Horace que s'était écoulé le long enfantement de la grandeur romaine. Lucullus et Pompée avaient abattu en Orient la puissance de Mithridate. César avait mis fin à la guerre des Gaules, passé le Rhin, porter les aigles romaines jusqu'à cette île sauvage connue sous le nom de Britannia et qu'au blanc aspect de ses rivages, il nomma Albio. Gabinius avait pénétré dans les déserts d'Arabie et y avait soumis les Nabatéens. Crassus était fait battre et tué par les Parthes, Pompée avait été battu à Pharsale et assassiné en Égypte. Enfin, il avait vu la victoire de Munda, la dictature et la mort de César. Maintenant, il voyait Brutus, l'un de ses meurtriers, le plus chéri de tous, celui qui avait fait pousser au dictateur son plus douloureux, son suprême cri « Tu quoique, mi Brute ?»«
Et toi aussi, mon Brutus !»
C'était à cette école d'Orbilius qu'Horace avait connu deux jeunes gens, dont l'un, Lucius Varius, avait déjà composé la célèbre tragédie que Quintilien compare aux plus belles pièces d'Euripide et de Sophocle. Mais dont l'autre, Virgilius Maro, n'était encore connu que par des pièces de peu de valeur. Horace, comme nous l'avons dit, s'attacha à Brutus et le suivit en Macédoine. Pendant la première campagne, il s'y conduisit d'une façon si remarquable, lui qui devait à Philippe, pour fuir plus vite et plus inconnu, jeter loin de lui son bouclier, son augusticlave et son anneau, que Brutus l'éleva à la dignité de tribun des soldats, dignité qui n'avait au-dessus d'elle que le consulat. Abandonnons notre poète et revenons aux grandes catastrophes qui agitaient le monde en ce moment.